L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère. C'est une émission réalisée aujourd'hui avec l'association Bretagne Vivante, comme c'est le cas une fois par mois. Aujourd'hui, c'est un intervenant que vous connaissez bien à force. L'une de ses spécialités, ce sont les bêtes à écailles ou à police, les amphibiens et les reptiles. Savez-vous que le département d'Ille-et-Vilaine a fermé en ce début du mois de mars la route départementale 35 à Talensac, c'est à l'ouest de Rennes, et ce pendant 2 semaines pour permettre aux crapauds et aux grenouilles de traverser la route sans se faire écraser, car sinon c'était une véritable hécatombe. C'est une mesure que je trouve à la fois heureuse et un peu triste quand même. Je ne sais pas ce qu'en pense notre invité, qui est donc spécialiste des amphibiens et des reptiles, on dit herpétologue. Stéphane Visa en est un. Il vient nous parler de ces animaux, car Bretagne Vivante co-anime l'Observatoire herpétologique de Bretagne. Bonjour Stéphane.
Bonjour Véronique, bonjour tout le monde.
Alors l'Observatoire herpétologique de Bretagne, qu'est-ce que c'est déjà et puis...
Alors l'Observatoire herpétologique de Bretagne, c'est un programme régional qui a été initié en 2020. Et le financeur principal, c'est la région Bretagne. Et donc le principal objectif de l'Observatoire, c'est de développer la connaissance et de partager la connaissance sur les reptiles et les amphibiens en Bretagne. Voilà, donc en gros, cette expertise générée, elle va servir aussi à la région à appuyer son schéma régional de cohérence écologique, la trame verte et bleue, quoi, en gros, pour résumer des choses, quoi.
Alors la trame, voilà, il faut redire, parce que c'est un lien avec la route, les routes qui ferment ou pas, c'est que les routes, en fait, elles bloquent le passage, hein, c'est ça, concrètement, de ces animaux qui se déplacent.
Ah oui, donc en ce qui concerne la fermeture provisoire de la départementale, le 35, là, tu me l'apprends, j'étais pas au courant, mais c'est très bien, c'est une mesure qui, en tout cas, sert la conservation des espèces, ça c'est évident, parce que les amphibiens ont en général une reproduction un peu explosive, c'est-à-dire qu'ils quittent leur habitat terrestre quasiment tous en même temps pour aller à l'eau, sur une période en tout cas très courte, d'une semaine, 15 jours.
Parce qu'il faut rappeler qu'ils ne vivent pas dans les mares, c'est juste là où ils pondent.
Voilà, c'est ça, où ils éjectent leurs larves, ça dépend des espèces.
Oui,
mais en gros, une fois qu'ils ont accompli leur cycle de reproduction, ils repartent dans les haies, dans les bois autour.
Ils passent toujours par les mêmes chemins
Ils sont relativement fidèles à leur cycle aquatique. Mais en tout cas, s'ils ont à traverser une route, ils la traversent. Et comme le bitume peut être un peu... il peut y avoir pas mal de bêtes à manger. Il peut se faire une halte un peu casse-croûte sur le bitume, parce qu'il y a toujours des bêtes à traîner aussi.
Ah oui, ça arrête.
Du coup, ils passent
mauvaise
un peu
idée.
De temps, ils restent là, voilà, et ils ont toutes les chances de se faire écraser. Et il y a sur certains axes routiers bretons, il y a un vrai enjeu en termes de mortalité d'amphibiens.
Et donc, parfois, on fait des crapauduts, c'est ça?
Oui, alors les systèmes de crapauducs existent, mais c'est lourd à mettre en place.
C'est quoi, c'est des tunnels ou c'est des pompes plutôt?
C'est des bases géotextiles en fait qui. Alors soit c'est des buses qui sont sous les routes, puis il y a un système de bâches en fait qui servent un peu d'entonnoir, et puis tous les amphibiens se retrouvent ensemble à traverser sur la route. Ou bien des fois il y a juste les bâches et puis il faut des bénévoles pour aller récupérer les bêtes dans les seaux et les faire traverser. Et donc du coup c'est très compliqué à mettre en place, ça coûte un peu de sous et puis c'est très chronophage en termes de personnes en fait, parce qu'il faut des gens toutes les nuits pour faire traverser les crapauds. Voilà, et du coup des fois la meilleure solution et la solution la plus simple c'est de fermer la route provisoirement le temps que les amphibiens sont allés dans l'eau et puis le temps qu'ils sont ressortis de l'eau pour retourner dans leur bois.
Et la région, quand elle fera, enfin je ne sais pas si elle a déjà commencé à le faire, son schéma trame verte et bleue, elle, elle prévoira ça ou elle, qu'est-ce qu'elle fera concrètement?
Bah, il y a des axes routiers. Bah, en fait, il faut, nous, dans l'Observatoire, on a envie à terme de pouvoir dégager un peu de temps pour nous emparer de ce sujet-là vraiment et de faire une carte un peu des zones les plus accidentogènes de Bretagne avec les données naturalistes dont on dispose.
Ça
existe. Bah, il faut juste qu'on trouve le temps de le faire. Ouais. Et voilà. Mais ça fait partie des projets qu'on a effectivement et pour permettre à la connaissance et ben de l'expertise d'augmenter et puis aussi localement après de voir un peu ce qu'on peut faire concrètement sur les axes les plus accidentogènes. Mais c'est un vrai travail qui doit mobiliser beaucoup de monde pour qu'on récupère les données, puis des données de façon un peu formatée, toujours pareil,
oui,
pour pouvoir
ça, ouais.
Évaluer les dangers, etc., etc. Donc c'est un vrai sujet en tout cas, ouais.
Et qui est donc censé observer dans cet observatoire des amphibiens et des reptiles?
Alors, en ce qui concerne les protocoles amphibiens et reptiles qu'on développe en ce moment et dont on va parler un peu plus tard, toutes les personnes susceptibles de reconnaître les amphibiens et les reptiles peuvent participer à ces programmes, quoi. Voilà, donc c'est autant des chargés de mission naturalistes d'autres structures associatives que Bretagne Vivante ou que Vivre à Mort qui portent l'Observatoire, que des chargés de mission Natura 2000, des gestionnaires de réserves, d'espaces naturels protégés, mais ça peut être aussi des naturalistes de la communauté naturaliste, des bénévoles, quoi, qui veulent faire un suivi autour de chez eux, sur des espaces protégés ou pas d'ailleurs, on en reparlera aussi, mais c'est intéressant d'aller voir les amphibiens dans des endroits où, en dehors des espaces protégés justement. Quoi.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà, donc ça concerne à l'heure actuelle un peu plus de 50 sites en Bretagne qui sont suivis et 70 sites pour les reptiles, 55 pour les amphibiens je crois et 70 pour les reptiles.
Oui, j'ai toujours cette question, c'est pourquoi est-ce qu'on les a mis ensemble les amphibiens et les reptiles?
Ah bah j'en ai aucune idée.
C'est comme ça depuis toujours.
C'est comme ça depuis toujours.
L'herpétologie, c'est la science des amphibiens et des reptiles.
C'est ça, ouais. mais il n'y a pas de...
Il y a une logique, quoi. Enfin, c'est
non, il
n'y
a pas de logique,
pas
de plus, parce que de toute façon, le terme reptile, il n'est pas très logique, il n'est pas très scientifique tout seul, parce qu'en fait, il faudrait intégrer les oiseaux en fait, au groupe, et pour qu'ils soient, comment dire, valides d'un point de vue phylogénétique. Mais appeler oiseau reptile, ça a un non-sens quand même. Et...
Ouais,
c'est sûr. Donc le groupe en lui-même, il n'est pas très scientifique. Et puis c'est vrai que tout le temps, historiquement, on a traité les deux ensemble. Alors que...
C'est par défaut, quoi. C'est ni poil
ni
plume.
Oui, parce
gros,
que quand on regarde n'importe quel arbre phylogénétique, on se rend compte qu'ils ne sont pas proches, quoi.
En plus, voilà. Ouais, d'accord.
Mais après, bon, il n'y a pas beaucoup d'espèces. Je sais pas l'expliquer, en fait, pourquoi.
C'était sans doute pratique.
Je pense que c'est pour des raisons d'usage et des raisons pratiques, essentiellement.
OK. Alors, les protocoles, donc, puisque... Un observatoire, c'est ce doit en fait d'avoir des protocoles. Enfin, pourquoi est-ce qu'il faut des protocoles justement d'observation?
Alors, il faut dès lors qu'on veut faire des cartes de répartition à l'échelle de la Bretagne pour savoir qui est où, on n'a pas besoin trop de mettre en place des protocoles. On peut faire de la présence-absence et il y a cette bête là où il y a pas et puis ça peut se faire au fil du temps, etc. Mais dès lors qu'on veut vraiment évaluer de façon précise l'évolution des populations.
La quantité, quoi.
C'est pas la quantité, c'est comment les populations évoluent, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins,
ouais.
En sachant que la quantité,
c'est la quantité, plus ou moins. Pas de quantité d'espèces, mais quantité d'effectifs par espèce.
Pas vraiment, parce qu'on parle du... Le protocole n'évalue pas le nombre d'individus sur le site où on les compte, en fait. On regarde le cortège, et qu'il y en ait un ou 100, ça ne change rien pour nous. Sauf qu'en multipliant les sites où on fait la même chose, et avec des outils qu'on peut... avec des protocoles, justement, qu'on peut comparer entre eux, et en le faisant de façon répétée dans le temps, toujours aux mêmes périodes, etc., d'un point de vue après statistique, si on a suffisamment de sites de suivi, on peut évaluer la tendance en fonction de la détection des espèces, quoi.
D'accord, je comprends.
Voilà, donc en fait, on n'aura aucune idée de combien il y a de crapauds, Et on saura si les populations de crapauds augmentent ou diminuent à terme si on suit suffisamment de sites pendant suffisamment de temps.
Et donc les protocoles, c'est pour avoir une idée plus précise, quoi. Enfin pour une évolution.
Pour évaluer, c'est des suivis temporels.
Ouais,
donc l'idée des protocoles, alors ce sont des protocoles nationaux. Hein. Nous, on est en lien avec la Société herpétologique de France, qui chapeaute ça à l'échelle du pays.
Et c'est quoi, rattaché au muséum d'histoire
naturelle ? Oui, c'est ça, ils travaillent avec le muséum, et c'est une association indépendante.
Ah ouais, d'accord.
Et c'est eux qui développent les protocole à l'échelle nationale. Et nous, en tant qu'observatoire, on est coordinateurs régionaux, en fait relais régional de la SHF pour mettre en place et développer ces suivis-là.
Donc ça veut dire que Bretagne Vivante fait de la formation, c'est ça ?
Nous, on forme effectivement au protocole les personnes intéressées, mais pour l'instant on ne forme pas la reconnaissance des amphibiens et des reptiles. En fait, on considère que pour mettre en place un fameux protocole, le fameux protocole qui s'appelle POP d'ailleurs, on ne l'a pas dit, pour protocole d'occurrence des populations, on est censé s'adresser à des gens qui savent reconnaître les espèces.
Alors les espèces, combien y en a-t-il concernées?
À l'échelle de la Bretagne, on a à peu près une quinzaine d'espèces d'amphibiens. Je dis à peu près parce que il y a le complexe des gredouilles vertes qui nous pose problème, parce qu'il y a plusieurs espèces là-dedans. Il y a des hybrides qui sont fertiles. Enfin, c'est un gros bazar chez les grenouilles vertes.
Mais c'est la vie comme elle va, non ?
C'est ça.
Ça évolue tout le temps.
Bon, voilà.
C'est la preuve.
Du coup, on a du mal à savoir un peu exactement ce qu'il y a et où, pour le coup. C'est un autre sujet de l'observatoire, ça, à terme. Mais du coup, on peut tabler autour d'une quinzaine d'espèces d'amphibiens et à peu près 9 espèces de reptiles à l'échelle de la Bretagne.
Et exemple, qu'est-ce qu'il y a comme espèce emblématique chez les amphibiens, soit vraiment très, très vraiment typique de la Bretagne ou menacée peut-être.
En fait, il y a une liste rouge là qui existe là, qui est disponible sur internet, qui date de 2015 et qui liste un peu les espèces et qui évalue donc à l'échelle de la connaissance qu'on avait en 2015, savoir si les espèces sont menacées ou pas. Et donc il y a 7 espèces qui sont quasi menacées ou vulnérables à l'échelle de la Bretagne chez les amphibiens, donc c'est à peu près la moitié, et on a aussi 4 espèces sur 9 là, sur les reptiles, donc c'est aussi à peu près la moitié, donc c'est 50% des espèces qui sont menacées. Donc l'espèce la plus menacée chez les amphibiens, donc en 2015, c'était le triton crêté, qui est un gros triton mais qu'on n'a pas dans le Finistère, qui est plutôt à l'est de la Bretagne, Ille-et-Vilaine et quelques petites populations dans le Morbihan, et puis il remonte un peu dans les Côtes d'Armor, mais il vient pas dans l'ouest de la péninsule. Et l'espèce la plus menacée chez les reptiles, c'est la vipère péliade, qui est vraiment en danger de disparition, donc il y a encore un niveau de menace supérieur à celui du triton crêté. Voilà, en deux mots pour
les espèces.
Pour résumer
rapidement, une vingtaine, pour ces espèces, en gros, enfin 25, pas loin de 25 espèces en tout.
C'est ça, entre amphibiens et reptiles, ça fait 25 espèces. Ouais,
et ce n'est pas les mêmes personnes qui observent tout le monde, enfin, c'est ça, il y a des spécialistes plutôt, non ?
Ouais, globalement, la communauté herpétologique, elle est moins importante en nombre que les ornithologues, voilà, comme toutes les disciplines naturalistes. Et globalement, les personnes qui s'intéressent aux amphibiens s'intéressent aux reptiles, quoi, on va dire, voilà, de façon. Après, marginalement, il y a des exceptions, il y a des. Voilà, mais bon, on est suffisamment peu nombreux, donc on essaie de regarder un peu tout le cortège. Ouais. Mais c'est globalement les mêmes personnes quand même. Ouais.
Donc pour les amphibiens, on observe des trajets, c'est ça ? Et pour les reptiles, des sites, non ? C'est l'inverse ?
Non, alors c'est le protocole amphibien, il faut faire 4 passages dans l'année. Donc on est en plein dedans là, donc c'est trop tard
saison.
Pour cette année, on démarrera l'année prochaine. Pour les gens qui veulent s'y mettre, voilà, pour cette année c'est trop tard. Donc ces quatre passages dans l'année de janvier à mai, on va dire, et donc de la nuit.
Ah oui.
Et là, en fait, on fait un parcours, mais on évalue les amphibiens qui sont seulement rattachés au site aquatique qu'il y a sur le parcours.
Donc on prend une mare, un étang, c'est ça?
On prend une mare,
ça,
un étang, un lavoir, un ruisseau à Courland, une prairie humide. C'est, en fait, on s'intéresse, pour le coup, dans ce protocole, au site aquatique, donc au site de reproduction des amphibiens, on ne s'intéresse pas aux habitats terrestres.
Mais on se poste donc au site aquatique lui-même ou est-ce qu'on se promène un peu dans le rayon autour ?
En gros, on délimite une aire.
Okay.
Et sur l'air, on délimite des sites aquatiques. Et quatre fois dans l'année, on va voir chaque site aquatique qu'on a intégré à notre aire. Et on passe un quart d'heure, 20 minutes par site, vraiment à l'échelle du site. Donc si c'est un grand étang, on ne fait pas tout le tour parce qu'on n'a pas le temps. Mais
on
ne
va pas dans l'eau quand même.
Non, non, on reste.
Ouais.
On reste sur la berge. Et on peut même, on n'est même pas obligé d'utiliser de d'épuisettes ou de troubleaux. On n'est pas trop fan de ces techniques-là d'inventaire dans l'observatoire parce que c'est assez intrusif. Donc on peut le faire. Puis comme nous, si on envoie un ou sans, c'est pareil finalement. On préconise plutôt d'utiliser l'oreille. Parce qu'il y a les anours chantent.
Donc les anours, c'est les crapauds et les grenouilles.
Les crapauds et les grenouilles.
Il faut connaître aussi les choux.
Oui, oui, oui. Mais j'ai déjà dit, c'est pour ça que je suis déjà venu avant.
Mais oui, tout à fait, on en a déjà parlé.
et
plus facile que les oiseaux, peut-être.
Oui, ouais. et à vue pour les anours et les urodèles, qui sont les salamandres et les tritons, à vue à la lampe. Quoi.
Et c'est la nuit.
C'est le premier passage, on le fait deux jours parce qu'on repère des pontes de grenouilles rousses, qui est la première grenouille, qui est le premier amphibien à se lancer dans la saison de reproduction chaque année.
C'est elle qui fait une grosse boule, c'est ça, au fond?
Ça fait des grappes, en fait, les pontes de grenouilles. Puis la grenouille rousse, elle met ses grappes dans des très faibles profondeurs d'eau, voire des milieux très temporaires, comme des prairies humides, dans des flaques. Et elle agglutine, elle pose.
Elle fait une pelote un peu, non? Ou un chapelet.
Chaque grappe est mise sur une autre grappe, ça fait des radeaux de grappes.
Ah oui.
Donc ça peut faire des grandes surfaces de ponts de grenouilles, quoi. Donc c'est très caractéristique. Et puis on a les grappes qui arrivent dès le mois de décembre. Donc c'est très tôt dans l'année. Enfin,
donc
très
là,
tard dans l'année civile, mais très tôt dans l'année de reproduction des amphibiens.
Donc repérage en journée et après
Repérage et premier passage en journée. Puis après, on fait deux passages de nuit. Il y en a un qui est plutôt au mois de mars, là, en ce moment. Le deuxième, il sera plutôt en avril. Ça sera plus pour les tritons. Et puis après, mais les tritons sont déjà dans l'eau maintenant. Donc voilà. Puis après, le quatrième passage, c'est un peu le passage joker. On évalue en fonction de, tiens, il manque telle espèce. Donc je vais plutôt essayer de la cibler elle. Donc je vais plutôt passer deux nuits ou deux jours selon l'espèce. Enfin voilà.
Ah oui.
C'est la session de rattrapage. En sachant que, globalement, le dernier passage, il est plutôt de jour et plutôt dédié aux grenouilles vertes, justement, qui, elles, coassent en pleine journée, quoi. C'est elles qu'on entend sur les grands étangs.
Dans
la journée, c'est les grenouilles vertes, ouais.
Et qui se déplace la nuit, sinon, plutôt, alors?
La majorité des amphibiens sont actifs plutôt de nuit, quoi. Donc ça concerne l'ensemble des espèces. Après, le premier passage pour repérer les pontes de grenouilles rousses, c'est plus simple la journée parce qu'on voit et que les pontes, elles sont là. Mais sinon, globalement, les passages de nuit, c'est là où on voit le plus de bêtes, quoi.
Mmh.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans
Non, je voulais parler des reptiles. Je ne sais pas si c'est.
Allons-y. Comment est-ce qu'on définit les sites?
Pour les reptiles, le protocole, il est légèrement différent. Parce que forcément, c'est en journée, là, pour le coup. Et selon le long de petits parcours, on fait une série sur une aire donnée. On met en place une série de trois transectes, donc c'est des lignes, des parcours qui font une soixantaine de mètres de long. En général, on met ça sur des lisières bien exposées, ensoleillées.
D'accord, c'est ça. C'est ça qu'ils aiment bien. Une lisière au soleil.
Ouais, okay. Alors une lisière au soleil,
un
mais...
peu humide.
Non, pas forcément, non mais non, eux, ils sont beaucoup plus sensibles à la structuration de la végétation, en fait. Il faut des haies qui soient denses, et avec toutes les strates de végétation, c'est-à-dire autant une couverture un peu herbacée, mais aussi une couverture arbustive, de la ronce, pour faire simple, et aussi des arbres. Mais s'il n'y a que des arbres et un champ en lisière, ça ne leur suffit pas, parce qu'il faut des zones denses de végétation pour qu'ils puissent s'abriter. Et puis, l'idéal pour les reptiles, c'est d'avoir des lisières avec une bande d'herbe et, entre le champ ou la pâture et la haie ou le bois. Et ensoleillé. Et du coup, pour augmenter les chances de détecter des reptiles le long de ces transectes-là, on met quelques plaques qui sont des plaques en caoutchouc, en fait. En général, c'est des tapis de carrière qu'on récupère donc sur les sites industriels et qu'on coupe, qu'on pose et qui sont assez intéressants d'un point de vue thermique et sous lesquels les reptiles peuvent venir se réfugier. Ou dessus.
Parce que c'est, ça chauffe, c'est ça l'intérêt ?
Ouais, ça conserve la chaleur surtout, quoi. Ça, voilà. Ouais. Et du coup, en fonction des paramètres météo, les serpents aiment bien soit se mettre dessus, soit se mettre dessous. Et on augmente les chances de les repérer comme ça. Et alors, il y a des espèces qui sont très réactives, hein, les orvets notamment.
Qui sont des lézards, c'est ça, les orvets ?
Ouais, voilà, des lézards.
Ils ressemblent à des
lézards
serpents.
Sans pattes, enfin, bon, bref. Ouais. Et du coup, ils aiment bien se mettre sous les plaques, les vipères aussi, les couleuvres, enfin, les lézards sont plus généralement dessus, voilà, ça dépend un peu des spécificités de chaque espèce. Et du coup, on fait 6 passages dans l'année, là, pour le coup, qu'on essaye de cibler sur 2 mois.
Et donc, sur le trajet, les transectes, ils font combien de...
Bon, ils font entre 60 et 100 mètres de long.
D'accord.
Voilà. Mais l'idée, c'est toujours pareil, comme c'est des suivis temporels, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a placé un transecte, eh ben, on le suit chaque année.
D'accord.
Et puis
donc
on essaye de...
Ça va toujours au même endroit.
Voilà. Ouais, pour répéter les manies. Et c'est la répétition qui va permettre de dégager des tendances, en fait.
Et donc, le protocole, la durée d'observation, je ne sais pas si c'est 5 ans pour la région,
oui.
Ça ne va pas bouger. Les sites qui ont été définis au départ, ils ne vont pas bouger, en fait.
Normalement, non. Mais oui. Après, nous, on s'adapte aussi aux personnes qui suivent les sites. Donc, il y a des gens qui arrêtent... qui se rendent compte qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et qui, qui abandonnent. Enfin, bon, voilà, on fait avec. Mais globalement, pour que les sites soient intégrés après à l'analyse nationale, et il faut qu'il y ait au moins 3 années de suivi. Donc, ça veut dire que 3 années de rang pour les reptiles, et comme les amphibiens, c'est une année tous les 2 ans, il faut au moins 5 ans de suivi, quoi.
Ça fait combien de personnes qui sont impliquées dans l'observatoire là,
C'est une personne par aire, quoi. Donc c'est 50, il y a au moins 54 personnes. Alors dans l'observatoire, nous on est en tant que salariés de Bretagne Vivante et de Vivarmor, on est 5. Voilà.
Donc vous faites des passages, les salariés ?
Non, on ne fait pas les passages. On n'est pas financé pour faire les passages, on est financé pour coordonner, pour former les naturalistes au protocole. Et pour coordonner, c'est-à-dire que s'assurer que les gens ils fassent bien ça comme il faut, en respectant les règles du protocole, et qu'après ils saisissent leurs données aussi au bon endroit, pour que les données soient utilisées, pour que les données puissent être utilisées. Donc il y ait le bon nombre de passages, et que les données soient renseignées au bon endroit, et pas que les données aussi, parce qu'il y a des informations de type environnemental, quoi, les habitats ou lesquels on a mis les transectes, enfin tout un tas de trucs. Et donc nous, on veille à ce que l'observateur soit autonome de A à Z, mais qu'il fasse bien les choses. Voilà.
Et la transmission des données, c'est quoi ? C'est sur un site internet du...
C'est la base de données naturaliste de Bretagne Vivante.
Ouais.
Donc on donne accès à la base et il y a une partie de la base qui est réservée au suivi protocolé amphibiens et reptiles. Et on explique un peu à toutes les personnes, qu'ils soient de Bretagne Vivante ou pas d'ailleurs, comment ils saisissent leurs données. Et après, c'est la SHF, donc la Société Herpétologique de France, à l'échelle nationale, utilise la même base. Enfin, pas le même logiciel en tout cas, et du coup, les données peuvent remonter très facilement. Et c'est aussi le même logiciel qui est utilisé pour la base de l'INPN, de la région. Enfin, tout ça maintenant peut circuler d'une base à l'autre relativement facilement.
Et il y a un observatoire dans toutes les régions, enfin pas que qu'en Bretagne.
Ah bah, alors il y en a d'autres. Est-ce que l'ensemble de la France est couvert? J'ai pas l'info. Mais oui, oui, il y en a d'autres qui existent et qui font à peu près le même travail que nous. Ouais.
Et les données, c'est des données manuscrites ou, enfin, écrites, ou est-ce que ça peut être des photos et des sons éventuellement?
Ah bah dans la base c'est des données liées à la présence des espèces uniquement, c'est pas des...
Ouais, mais ça peut pas être quelqu'un qui a enregistré le son de je sais pas quoi, du crapaud.
Bah là il y a d'autres endroits où on peut mettre ça. D'accord. Notamment si on veut des confirmations d'identification, mais dans le protocole il faut saisir les espèces.
D'accord, seulement.
Oui, okay. Enfin les espèces et puis le nombre, l'habitat. Même si ouais. On sait que ça ne sert pas à grand-chose dans l'exploitation, mais si on l'a, autant le noter. Mm. Puis après, il y a des paramètres météo, des paramètres environnementaux à renseigner. Mais on considère que les naturalistes sont capables de reconnaître les espèces, donc ils mettent les espèces qu'ils ont vues. Mais nous, on vérifie aussi derrière qu'il n'y ait pas d'erreur manifeste. Mm-hmm. Voilà.
Ok. Eh ben, merci beaucoup Stéphane Visa. Bretagne Vivante reviendra dans l'Aisne, comme c'est le cas une fois par mois. La prochaine fois, ce sera le 3 avril. Et on peut réécouter toutes les émissions sur le site de la radio.
Merci. Au revoir.
Au revoir.